Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Cancer, osez en parler, le podcast de la Ligue contre le cancer Comité 13. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis Boudard, ancien journaliste de presse écrite, radio et télévision, qui va revenir avec nous sur un voyage à vélo un peu spécial le long de la Loire, le fleuve de son enfance. Un périple qu'il raconte dans un livre, La Loire en roue libre, et dont la genèse se niche dans l'après-cancer. Cette promesse que vous êtes faite sur votre lit d'hôpital, Jean-Louis.
Bonjour. Oui, c'est exact. Bonjour, Caroline.
Alors, nous allons évidemment revenir longuement sur cette aventure à bicyclette, mais évoquons tout d'abord ce cancer du rein qui vous a frappé et qui frappe plus de 15 000 personnes par an en France. Donc vous, le jeune retraité et grand sportif.
Mais en fait, ce cancer du rein a été diagnostiqué d'une façon tout à fait fortuite, puisque en 2019, j'ai donc fait une violente infection urinaire, ce qui a priori n'est pas très grave, même si la fièvre était importante. Et il a fallu attendre le mois de juin pour faire une biopsie, puisqu'à cette époque-là, eh bien, c'était le coronavirus. Les hôpitaux étaient saturés et j'ai donc attendu quelques mois pour me rendre compte finalement que j'étais atteint d'un cancer du rein. Et le docteur Breton qui me l'a annoncé a été relativement franc. Il m'a dit « Monsieur Boudard, voilà, vous avez un cancer ». Et c'est un mot qui fait peur en fait, parce que on sait, même si on n'est pas confronté directement à la maladie, que ce cancer peut tuer, peut provoquer des troubles très importants, notamment avec la chimiothérapie. J'ai vraiment été complètement sous le coup de cette annonce. Voilà.
Donc à ce moment-là, concrètement, comment vous réagissez? Vous êtes en mode combatif dès le début?
Non, pas du tout. J'étais complètement abattu, en fait. Voilà.
C'est important, ça, pour celles et ceux qui nous écoutent. Hein. On n'est pas tout de suite ce warrior attendu, souvent par les proches,
même
d'ailleurs.
Même si, comme vous le disiez, effectivement, le sport que je pratique depuis longtemps, la montagne, la mer... Être confronté aux éléments m'a quand même fortifié. Mais j'avoue que à l'annonce de cette maladie et de ce mot que j'ai encore beaucoup de mal à prononcer, j'ai été complètement abattu en fait. Et ensuite, il a fallu décider d'une date d'opération. Ça a été le 11 septembre. Je voulais absolument pas que cette opération ait lieu le 11 septembre, puisque c'est une date qui marque évidemment tous les esprits par rapport aux attentats qui ont frappé les États-Unis. Je me suis dit, c'est vraiment un mauvais signe. Je ne veux pas être opéré un 11 septembre. Malheureusement, il n'y a pas eu d'autres possibilités. Voilà. Donc je suis passé à l'hôpital. L'opération s'est pas très bien passée. J'ai perdu beaucoup de sang. Ça a été compliqué. Et je me suis retrouvé donc sur ce lit d'hôpital, totalement abattu, abasourdi par ce qui se passe, sans savoir quelles allaient être les suites de cette opération, de cette maladie. En fait, sur l'écran de télévision de mon voisin, un écran qui était éteint, il n'y avait pas le son, il y avait juste l'image, je me suis rendu compte que je voyais des coureurs, en fait, des coureurs du Tour de France. Et c'était l'étape entre Saint-Étienne et Lyon. Et il y avait une rivière, en fait. Et je savais que c'était la Loire. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais vraiment arriver à faire ça. Mais ça me semblait totalement impossible à l'époque.
Qu'est-ce que vous pratiquiez comme sport avant la maladie ?
Alors moi, j'ai été coureur à pied au départ, ouais. Un nageur. Donc, j'ai fait du triathlon pendant plusieurs années. Donc je me suis toujours beaucoup entraîné. Et il me semblait que, étant entraîné, étant sportif, ne fumant pas, ne buvant pas, ayant une alimentation très saine, j'étais à l'abri de cette maladie. Il me semblait impossible d'être atteint par un cancer. Et en fait, je me suis rendu compte que le cancer peut frapper tout le monde, y compris moi. Et j'ai trouvé ça très injuste quelque part. Je me suis dit, je fais des efforts, j'essaie de manger correctement, d'avoir une vie saine. Et malgré tout, voilà, le cancer arrive, il faut le gérer.
Et il faut le gérer et pas seul, il faut le gérer avec ses proches. Comment ça s'est passé pour vous ?
C'est très compliqué en fait, notamment par rapport aux enfants. Il me semblait faire un devoir de franchise, c'est-à-dire ne pas cacher cette maladie. Je pense qu'il faut être franc, même si c'est difficile d'en parler, il faut être franc avec ses proches. Et mes enfants n'étaient pas à Marseille à l'époque. J'ai deux filles, elles étaient l'une à Annecy et l'autre en Hollande. Et donc tout s'est passé par téléphone. Et je me suis dit, c'est très compliqué de l'annoncer. Elles ont pleuré, elles ont eu peur pour leur papa forcément. Mais je leur ai expliqué comment ça allait se passer. Je les ai rassurés et bizarrement, en les rassurant, je me suis rassuré moi-même.
Alors, évidemment, On pense encore à celles et ceux qui nous écoutent. On va parler un petit peu de ce cancer avant d'arriver à cette merveilleuse aventure et de voir loin, parce que ça vous a aidé aussi à un moment donné.
Énormément.
D'imaginer ça et d'imaginer l'après. La prise en charge du cancer du rein, concrètement. Donc, vous avez dit que vous avez été diagnostiqué. Il s'est passé quoi ? 2 mois avant l'opération ?
L'attente est compliquée, en fait. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On ne sait pas s'il y a des métastases à l'intérieur du corps, comment on va pouvoir enlever cette tumeur. Donc les nuits sont courtes, on réfléchit beaucoup, on se documente, on va sur Internet, on lit un peu n'importe quoi. Donc c'est compliqué. Voilà. Après, j'ai quand même réussi à avoir un entretien avec le chirurgien et il m'a beaucoup rassuré. En fait, c'est quelqu'un, comme tous les praticiens du cancer, qui connaissent parfaitement leur métier, qui savent exactement comment ça se passe. Sauf que quand on est de l'autre côté, quand on est patient et quand c'est la première fois qu'on est atteint par cette maladie, on ne sait rien. Donc voilà, l'échange à ce moment-là est important quand même.
À quel moment vous avez été mise en relation avec la maison bien-être ?
Eh bien, c'est grâce à Magali, en fait, qui m'a permis de venir vous voir. Et je ne connaissais pas cette maison. Et j'avoue que si j'avais eu connaissance de cette maison du bien-être avant, je pense que je serais venu ici. Parce que je pense qu'il y a ici une écoute qu'on ne trouve pas forcément dans un milieu hospitalier où les praticiens sont extrêmement sollicités, donc ils sont pressés. Le personnel hospitalier, on le sait, en ce moment est sous tension. Et je pense que cette maison du bien-être, au-delà de l'aspect bien-être, est également une maison d'écoute. Et ça me semble très important.
Donc peut-être que pendant ce laps de temps, ça aurait été bien effectivement d'avoir des oreilles attentives.
Absolument.
Et c'est ce qu'on trouve ici. Donc l'opération au mois de septembre, là vous vous retrouvez alité.
C'est ça.
Aller jusqu'à la porte vous paraît déjà un premier défi, donc ne serait-ce que de vous lever de votre lit pour aller jusqu'à la porte. Et là pourtant, en voyant cet écran, vous vous dites « j'aimerais vraiment bien faire du vélo le long de la Loire ». Et ça devient un petit projet.
Mais ça devient plus qu'un projet, en fait. Ça devient un objectif, ça devient un but. Et d'autant plus que ça me paraît, à ce moment-là, irréalisable. Effectivement, j'ai mis des jours et des jours à pouvoir m'asseoir, à pouvoir me lever, à pouvoir mettre un pied devant l'autre, aller à la porte, du lit à la porte. Bon, j'ai fait ça pendant plusieurs jours. Et c'était déjà à chaque fois un petit exploit. Et en fait, je me suis rendu compte que chaque pas effectué permet de se projeter un peu plus loin. Voilà. Et je pense que c'est très important quand on est affaibli, quand on est malade, quand on est atteint psychologiquement, moralement, physiquement, de pouvoir se dire « je vais faire ça, je vais aller jusqu'à l'escalier, je vais descendre quelques marches et je vais les remonter ». Et à partir de là, il y a tout un espèce d'engrenage qui se met en place et je me suis dit « mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas remonter un vélo ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas finalement rouler le long de la Loire et pourquoi pas partir depuis la source ? » Donc ça devient quelque chose de très motivant. Et lorsque, au mois de mai, donc 8 mois après l'opération, je suis en Ardèche, honnêtement, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit « mais j'y suis, quoi ». Je ne sais pas encore à ce moment-là si je vais y arriver. Mais le simple fait d'y être, vous avez le sentiment d'avoir vaincu quelque chose.
Alors pourquoi la Loire ?
Alors la Loire, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un fleuve magnifique. C'est le plus long fleuve de France. Il fait 1002 kilomètres. Donc il part du Mont-Gerbier-de-Jonc en Ardèche pour rejoindre l'océan entre Saint-Brévin-les-Pins et Saint-Nazaire. Et puis c'est également le fleuve de mon enfance. Je suis tourangeau, donc j'ai vécu pendant toute mon enfance, toute mon adolescence au bord de la Loire. Je suis parti à l'âge de 19 ans pour Aix et puis ensuite sur Marseille. Mais c'est toujours resté un fleuve qui m'a beaucoup attiré, ne serait-ce que parce que j'y ai roulé à vélo quand j'étais petit, parce que je l'ai descendu en partie en canoë, parce que j'ai marché, et puis parce que c'est un fleuve qui traverse aussi l'histoire de France. Voilà. Quand on roule au bord de la Loire, eh bien on rencontre des personnages historiques comme François Ier, comme Jeanne d'Arc. On rencontre des écrivains magnifiques comme Maurice Genevoix, comme François Rabelais, comme Julien Gracq. Et puis, il y a également tout un art de vivre. Voilà. Il faut savoir que la Loire comporte beaucoup de vignobles. On boit bien, on mange bien. C'est important aussi pour se refaire une santé.
Ouais. Donc là, on est en mai. Vous êtes au début donc, de cette merveilleuse aventure. Évidemment, pour tout savoir, vous allez nous en dire beaucoup, mais pour tout savoir, il faut lire le livre quand même. on le dit, on le redit. Combien de temps de préparation en amont? Donc vous me dites que l'idée germe sur votre lit d'hôpital, vous commencez à préparer tout ça concrètement, parce qu'on imagine bien qu'il y a toute une partie logistique, et puis de se retaper quoi, se retaper physiquement.
Bien, tout à fait. Ça a été un double cheminement, en fait. D'abord, un cheminement physique. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à marcher dans les couloirs, dans ma chambre d'hôpital, puis dans les couloirs. Ensuite, autour de mon immeuble. Voilà. J'habite dans le 8e et j'habite un petit appartement. Et autour de cet immeuble, je marchais. Je faisais 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Quand je suis arrivé à 1 km, c'était déjà génial. Et puis après, j'ai commencé à essayer de préparer physiquement ce voyage, donc en faisant du vélo, en roulant tout doucement, petit à petit. Et après, les kilomètres s'enchaînent et on se rend compte que le corps et l'esprit reviennent et les forces reviennent. Et ça, c'est extrêmement motivant. Voilà. Et puis le deuxième cheminement, ça a été de se dire, mais j'ai envie de raconter en même temps cette histoire. Je me dis, pourquoi pas essayer d'écrire quelque chose. Au départ, c'était plus à titre personnel, pour essayer de conserver des souvenirs, des traces de tout ce voyage intérieur et ce voyage géographique, on va dire. Et donc j'ai préparé un petit peu quand même ce voyage pour savoir exactement comment j'allais m'organiser, qu'est-ce que j'allais emmener. J'avais jamais voyagé à vélo, en fait. Et la question qui se pose tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on laisse. L'idée n'est pas de se charger outre mesure, parce que le vélo fait déjà 13 kilos. J'avais deux sacoches, je ne voulais pas faire de camping parce que ça me semblait trop compliqué. Donc j'ai choisi de dormir chez l'habitant, ce qui permet en même temps de rencontrer des tas de gens, des gens qui connaissent la Loire. Et il y a eu d'énormes échanges, des échanges fabuleux avec les Ligériens, comme on les appelle, les gens qui habitent au bord de la Loire. Et voilà, donc quand je suis le 15 mai en Ardèche, il fait 3 degrés, tout seul, il n'y a vraiment personne. Hein, voilà. Le Mont Gerbier de Jean, il faut le savoir, c'est quand même un lieu qui est extrêmement visité. Il y a plus de 10 000 personnes qui y vont chaque année. Les gens viennent de l'Europe entière pour voir les sources de ce fleuve. Mais au mois de mai, je suis tout seul. Il souffle un vent glacial et je me dis, bon, allez, là, il faut y aller.
Et à ce moment-là, on est bien d'accord que vous avez le go et le soutien de l'équipe médicale.
Tout à fait, oui, oui. On est d'accord. Ouais, ouais. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je suis assez couvert? Est-ce que j'ai amené assez d'habits? Est-ce que je ne vais pas avoir froid? Est-ce qu'il va pleuvoir? Comment ça va se passer s'il pleut? Enfin, je ne connaissais absolument pas tout ça. Voilà. Donc, je suis parti à l'aventure. Voilà.
Ah, vraiment l'aventure totale. Les proches, là, ils sont comment?
Autour de moi, les gens ont compris que cette aventure me portait, en fait. Ouais. Voilà. Et je pense que quand on est atteint par le cancer, c'est important d'avoir un objectif et de se projeter dans le futur. La pire des choses, c'est de se dire « c'est fini ». C'est ce que je me suis dit à une époque. Je me suis dit « c'est terminé, je ne retrouverai plus jamais mes forces d'avant. Je ne sais pas ce que sera ma vie, mais ce sera plus celle d'avant ». Et en fait, les forces reviennent, le mental revient, et chaque kilomètre parcouru vous donne justement cette énergie qui vous permet de continuer.
Alors, combien de kilomètres parcourus justement en tout?
Alors, la Loire, donc je l'ai dit, fait un peu plus de 1000 kilomètres. Moi, j'ai pas suivi toute la Loire parce qu'il y a des passages qui, heureusement d'ailleurs, sont protégés, interdits à la circulation. Donc ça, c'est très bien. Donc moi, j'ai fait 1100 kilomètres en fait, un peu plus que la Loire.
Ouais, combien de jours?
À peu près en un mois. Voilà, il m'a fallu un mois pour rejoindre. J'ai pris mon temps. Ce que je voulais, c'était pas faire forcément quelque chose de rapide. Je voulais prendre mon temps, prendre le temps d'entrer en contact avec ce fleuve, avec les gens qui y habitent. Pouvoir parler avec ceux qui sont sur place, parce que je raconte aussi dans le livre non seulement le fleuve, mais également tous ceux qui y vivent, qui y travaillent, et puis tous ceux qui aussi l'aiment et en parlent, et en parlent bien. Voilà, la Loire est un fleuve qui suscite beaucoup d'émotions, en fait, hein, de la part de tous ceux qui y résident, y travaillent et qui la défendent aussi. La Loire a été aussi un fleuve qui a été menacé. Je pense notamment à une personne que j'ai rencontrée, Daniel Véraud, dans un petit village qui s'appelle Collamps. Voilà, ça se trouve au début des sources de la Loire. Et en 1980, autour de 1980-90, eh bien, un projet de barrage était lancé par le gouvernement. Et les gens se sont battus en fait, pour sauver la Loire. Voilà. Ils sont arrivés. En 91, le projet a été abandonné. Wow. Ça a été une victoire, en fait. Mmh. C'est un petit peu l'équivalent du Larzac des rivières. Vous vous souvenez que dans le Larzac, les agriculteurs et puis beaucoup de gens venus de l'extérieur ont voulu sauver ces terres. Et voilà, c'était un petit peu la même chose, là.
Là, en termes de santé, Lors de cette aventure, vous en êtes où? Est-ce que vous avez encore un traitement post-opération?
Alors, je suis suivi tous les 6 mois, bien sûr, pour voir comment les choses évoluent. Pour l'instant, ça se passe bien, donc je suis en rémission. Mmh. Voilà. Mais bon, il y a toujours... on ne parle pas de guérison, comme vous le savez. Hein. On attend. Les mois, les années passent. Et puis, on se dit, bon, ça a l'air plutôt bien parti. Mais on ne sait jamais vraiment comment ça va évoluer. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Disons que le cancer m'a aussi appris à apprécier chaque journée. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut plus forcément se projeter sur des longues périodes. Donc, c'est aussi ça qui m'a conduit à faire ce voyage. C'est-à-dire qu'on ne remet plus les choses au lendemain. On n'a plus le temps d'attendre. Donc, les projets importants, les choses qu'on a envie de faire pour soi, pour les autres, avec ses proches, les livres qu'on a envie de lire, les choses importantes, on les fait sans les remettre au lendemain. Il n'y a plus de procrastination, comme on dit. Quand on est en bonne santé, on a toujours le sentiment que ça va rester pour toujours, mais on se rend compte un jour que ça peut s'arrêter très vite.
Chaque jour est une vie.
Exactement, exactement.
Alors, en arrivant, vous m'avez dit que hier, vous vous entraîniez. Donc, il y a d'autres défis, toujours des challenges, toujours des envies. Vous préparez quoi, là?
Alors là, je prépare le Critérium des Calanques, qui est organisé par un vieux club marseillais qui est plus que centenaire, qui s'appelle les Excursionnistes Marseillais. Et là, il s'agit de parcourir ce magnifique massif qui est à nos portes. Donc, il y a plusieurs parcours. Voilà, j'ai choisi le parcours le plus long, le plus difficile, parce que voilà, c'est aussi une façon de me prouver que je peux encore faire des choses. Et puis, en fait, je pense que je me réalise aussi dans l'effort. Voilà. L'effort me permet de tenir, de me projeter, de me dire que voilà, il y a encore un avenir sur le plan physique. Et j'ai 65 ans. Et c'est très agréable de savoir qu'on peut encore marcher, qu'on peut courir, qu'on peut gravir des montagnes, même si, en fait, les Calanques ne sont pas un massif très haut, mais le relief est très montagneux. C'est très raide. Et voilà, donc ça, je pense que l'effort physique nous permet aussi d'avancer.
Ça, c'est certain. Et puis, à travers ce livre, j'imagine une envie peut-être de témoigner.
Mais c'est ce qui m'a conduit à écrire le livre. Là. J'ai eu envie de raconter le fleuve, de dire que quand on est au plus bas, il y a un avenir quand même. On peut arriver à s'en sortir, qu'un objectif permet d'avancer. Et c'est important d'imaginer qu'il y ait un futur, qu'il y ait quelque chose derrière l'hôpital, derrière la chimio, derrière la maladie, derrière la douleur, derrière même la dépression. Il y a un côté psychologique qui est très important, en fait. On parle souvent de la maladie en termes de pathologie, mais il y a un aspect psychologique très important. Voilà. Le fait d'avoir des objectifs, en ce qui me concerne, sportifs, physiques, ça permet vraiment de tirer la machine en avant.
Ouais. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être sur un lit actuellement, eh ben on se dit que ce que vous venez de nous raconter, ce livre aussi, c'est une fenêtre sur autre chose, sur le monde, sur l'après. Oui. Et il ne faut jamais cesser de croire et se raccrocher à ça.
Il faut vraiment se dire que lorsqu'on est au plus bas, il peut y avoir quelque chose derrière. Voilà. Il y a un avenir. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi se donner les moyens de le faire, c'est-à-dire avoir envie de faire quelque chose. Je pense que l'envie, le désir sont des choses qui sont fondamentales. Voilà. Quand on s'y raccroche, il y a des moments où on est, même quand on est en forme physiquement, on se dit que c'est pas toujours facile, mais tout le monde a des soucis dans la vie au-delà de la maladie. Mais un objectif, quel qu'il soit, peut vraiment nous porter. C'est important.
Et ça a été le cas pour vous.
Voilà.
Et on vous retrouve aujourd'hui en pleine forme.
Ben oui, à peu près, ouais, ça va, non, ça se passe bien. Franchement, je suis très étonné et quand je retrouve, il m'est arrivé d'aller revoir les équipes médicales, de leur raconter ce que j'ai fait, ils sont vraiment à la fois contents pour moi et fiers de leur travail. Ouais. Moi, je voudrais aussi dire ici à quel point tous les personnels médicaux, du chirurgien jusqu'à l'aide-soignante, sont vraiment des personnes formidables. Quoi. Voilà. Je suis un peu ému parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs.
Ouais. Mais c'est bien de le dire, c'est important.
Ouais, c'est important et je crois qu'il faut vraiment les aider, les aimer. Voilà. Ce sont des gens qui nous portent, qui nous aident dans les moments difficiles.
Et dans des conditions difficiles pour eux.
Complètement, voilà. Ouais. Donc vraiment, merci à eux. Merci beaucoup pour tout ce que ces personnes font pour nous, voilà. Mmh. Avec le sourire en plus.
Ouais. Ouais. Et merci à vous, Jean-Louis, pour ce témoignage, parce que ça va aider beaucoup de gens, j'en suis certaine.
Je l'espère. Croyez en vous, croyez en votre avenir, croyez en votre corps, en votre esprit. Voilà, allez de l'avant, c'est important. Voilà. Moi, j'ai envie de vous encourager, de vous dire que voilà, vous êtes forts.
Vous êtes fort. On ne sait jamais à quel point on l'est d'ailleurs avant de devoir se confronter à du dur. Alors on rappelle la Loire en roue libre, maison d'édition. On va le redire.
Oui, c'est édité chez Transboréal, qui est une petite maison d'édition indépendante. Moi, je voulais absolument aussi être édité par un éditeur qui ait du sens. Ils sont installés à Paris, ils sont spécialisés dans les récits de voyage. Donc voilà, on peut partir avec eux un peu partout dans le monde.
Eh bien, c'est formidable. Merci beaucoup, Jean-Louis.
Merci, Caroline.
Merci.
Bonjour, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté ce podcast réalisé par la Ligue régionale dans le cadre du plan cancer de la région Sud. Merci à vous.